Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin. Merci pour cette belle louange. Et je ne dis pas merci qu'au groupe de louanges, mais à toute l'Assemblée, parce que c'était magnifique. C'est beau une église qui loue le Seigneur. Seigneur, que viens régner en nous. Amen, viens régner en nous. Je prends très au sérieux la confiance qui m'est donnée pour prêcher ce matin, parce que vous le savez, dans Jacques, dans l'épître de Jacques, il nous est dit que les enseignants, ceux qui prêchent, ou les docteurs, seront jugés plus sévèrement. Et moi, je comprends pourquoi ce passage nous dit ça. Je comprends parce que quand on a un message à délivrer, quand on a une vision à donner au peuple de Dieu, forcément, il y a un impact sur l'assemblée à laquelle on délivre le message ou la vision. Et si jamais le message n'est pas inspiré de Dieu, vous imaginez que l'impact va être négatif sur l'Église. Et c'est vraiment pas mon cœur, et c'est vraiment pas mon souhait ce matin. Donc je comprends ces paroles dans Jacques qui dit que les enseignants seront jugés plus sévèrement. Et je prends très au sérieux ce matin le fait de vous parler, et j'espère être inspiré. Je sais que Dieu m'a inspiré pour préparer ce message. Le préparer, c'est une chose. Et puis après, il y a la deuxième étape, il faut pouvoir le délivrer avec les bons mots, les bonnes intonations, le bon discours, le tact aussi, la fermeté aussi des fois. Et que Dieu m'inspire pour cela. Amen. Je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas facile à aborder, qui est très vaste en fait. Donc je l'aborderai à ma façon, selon ce que Dieu m'a demandé de dire. Bien sûr que je ne serai pas exhaustif, il y a plein de choses sur ce sujet, sur ce thème à explorer. Mais ce matin, vraiment, c'est pas que ce matin, ça fait depuis cet été, depuis des semaines que je suis... interpellé par le thème de l'incrédulité. On pourrait penser que c'est un sujet qui concerne les non-croyants, et que du coup, comme je pense que 95% des gens ici sont croyants, finalement, ça va être une prêche de plus et ça ne sert à rien. Mais en fait, en étudiant l'incrédulité, en regardant dans la parole de Dieu, je me rends compte que ça ne concerne pas que les non-croyants, c'est un sujet qui concerne les croyants également. Et je crois que le diable nous a induit en erreur, nous a fait croire que l'incrédulité, c'était pas pour l'Église, ça n'existait pas dans l'Église. Et en nous faisant croire ça, il a permis à ce qu'on ne mette pas le doigt là-dessus et qu'on ne dégage pas cette incrédulité. Et en fait, des fois, on passe à côté du but parce qu'on n'a pas nommé ce problème-là, cet obstacle-là à l'action de Dieu. Et je crois que vraiment, c'est un obstacle, un des obstacles, c'est pas l'obstacle, mais c'est un des obstacles à la libération de l'action de Dieu dans nos vies, dans l'Église, l'incrédulité. On va le voir, il y a une incrédulité, ça peut être une forme de « je ne crois pas en Dieu », mais là, je pense que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, je pense que là-dessus, on est tous d'accord que Dieu existe, mais ça peut être aussi « je ne crois pas dans les paroles que Dieu me donne », »,« je ne crois pas dans l'appel, dans le mandat que Dieu me donne », »,« je ne crois pas aussi dans mon prochain, je ne crois pas qu'il soit capable d'eux. » Donc il y a vraiment plusieurs formes d'incrédulité, et on va le voir. J'aimerais commencer ce prêche en vous posant deux questions. Est-ce que Jésus est tout-puissant? Amen. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que quelqu'un s'oppose à ça? Non. On vote à l'unanimité. Amen. Oui, en effet, parce que lui-même a dit « tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et puis après, il y a plein de versets qui en parlent, et rien n'est impossible à Dieu. Donc oui, Jésus est tout puissant. Jésus est tout puissant. Et deuxième question, est-ce que Jésus a pu faire tout ce qu'il voulait pendant son ministère sur la terre? Oui ou non? Est-ce qu'il a tout accompli? Oui, mais est-ce qu'il a pu faire tout ce qu'il voulait sur la terre? Il a été empêché, en effet. Dans Matthieu, en fait, il nous est dit que Jésus va en Galilée, c'est sa région où il a grandi. En fait, il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. Hein. Et donc, il nous est dit dans Matthieu 13, 58, Jésus ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, donc en Galilée. À cause de quoi? À cause de leur incrédulité. Et dans Marc, il est dit, il ne put faire beaucoup de miracles dans ce lieu, si ce n'est qu'il imposa la main à quelques malades et les guérit. Mais ça a été vraiment en dessous de ce qu'il avait envie de faire. Et c'est plus fort dans Marc, je trouve, la traduction, il ne put faire. C'est pas il ne fit pas parce qu'il avait décidé de ne pas faire des miracles, comme c'est écrit dans Matthieu, mais dans Marc, c'est il ne put faire. Donc c'est vraiment, il y a une notion d'être, il a été empêché de faire des miracles. Amen. Et c'est fort ça, parce que finalement, je me rends compte que quand on regarde les évangiles, c'est la seule chose qui a empêché Jésus de faire ce qu'il voulait, l'incrédulité. Il n'y a pas d'autres choses qui sont mentionnées, il n'y a pas un autre moment dans la Bible où on voit Jésus empêché de faire ce qu'il voulait. C'est uniquement l'incrédulité qui l'a empêché de faire ce qu'il voulait. Et puis il dira aussi, vous savez, un jour, il y a un papa qui arrive en fait auprès des disciples parce que son enfant est possédé et se roule par terre, il est lunatique. Et les disciples prient pour lui, mais n'arrivent pas à libérer cet enfant. Et Jésus redescend de la montagne à ce moment-là, il était sur le mont là, pour la transfiguration. Il redescend avec trois de ses disciples et il arrive, il voit le tumulte. Et cet homme, ce père de famille désemparé, se tourne vers lui et lui dit « Mais Seigneur Jésus, j'ai demandé à tes disciples, ils n'ont pas pu, viens au secours de mon enfant. » Et donc Jésus chasse le démon, et alors les disciples sont un peu interloqués, ils viennent vers leur maître, il leur dit « Mais pourquoi on n'a pas pu le faire ?» Et Jésus répond « C'est à cause de votre incrédulité que vous n'avez pas pu chasser ce démon. » Donc ces textes en fait nous montrent que l'incrédulité, c'est vraiment un obstacle à l'action de Dieu. Qu'on le veuille ou non, ça ne veut pas dire que c'est plus puissant, parce que Jésus est tout puissant, mais ça crée un obstacle dans le canal de bénédiction entre le ciel et la terre. C'est un obstacle. Bon, il n'y a pas que cet obstacle-là, il y a plein de choses qui peuvent entraver l'action de Dieu dans nos vies. Mais ce matin, on va parler de cet obstacle-là. Et c'est le seul obstacle qui est évoqué dans les évangiles qui a empêché Jésus de faire ce qu'il voulait. Alors on pouvait se poser la question, c'est quoi l'incrédulité? Je l'ai dit en introduction, ça peut être ne pas croire en Dieu, tout simplement, ne pas croire qu'il est vivant, qu'il existe, ne pas croire en son sacrifice, ne pas croire dans ses paroles, ne pas croire en l'appel qu'il nous donne, le mandat qu'il nous donne, ne pas croire aussi en mon frère, en ma sœur, en disant non, lui ça vaut rien. Et c'est vrai que malheureusement, on l'a entendu ça des fois dans les églises. Voilà, ça peut être à différents niveaux. Certains disent que c'est l'absence de foi. L'incrédulité, c'est l'absence de foi. Moi, je ne suis pas formellement d'accord avec ça, parce que dans l'histoire du jeune homme, justement, il s'avère que les disciples avaient vécu des guérisons, avaient vécu des délivrances. Quelques chapitres auparavant, donc quelques jours auparavant, Jésus les avait envoyés deux par deux avec le pouvoir de prêcher et de chasser les démons. Et il nous est dit, dans les chapitres précédents, qu'ils revenaient vers Jésus le soir, tout émerveillé de voir qu'ils pouvaient chasser les démons, qu'ils avaient cette puissance, que Dieu leur avait donné cette autorité-là. Donc il y avait une foi qui était née dans leur cœur. La foi était là chez les apôtres. Elle était là, puisqu'ils avaient vu Dieu, et ils étaient en marche, ils étaient actifs, ils allaient pour délivrer, pour prêcher. Sauf que ce jour-là, sur cet enfant, ça n'a pas fonctionné. Donc ce n'est pas une absence de foi. Ils étaient dans une démarche de foi. C'est vraiment à cause de leur incrédulité. On peut penser aussi que Après penser que c'est une absence de foi, on peut penser que c'est peu de foi. Peu de foi. Et là aussi, je ne crois pas que ce soit peu de foi, parce que, comme la Bible le dit, si vous aviez une foi comme un grain de sénevé, une toute petite foi, vous pourriez déplacer des montagnes. Donc en fait, c'est même un peu de foi nous permet de faire des miracles. Donc ce n'est pas un peu de foi qui bloque l'action de Dieu. Dans l'histoire du jeune garçon, le papa, en fait, il est venu vers Jésus, il a dit « Je crois, je crois ». Est-ce que tu peux, il dit, est-ce que tu peux le libérer? Et Jésus dit, si je peux, trois petits points, genre, mais bien sûr que je peux. Et alors il répète et il dit à Jésus, mais je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Donc il y avait la foi qui était dans son cœur, il était venu vers les disciples, premier acte de foi, il était venu vers Jésus ensuite, deuxième acte de foi, et là il dit à Jésus, ben oui, je crois, donc il affirme sa foi. Il y avait la foi dans son cœur, mais pour autant, viens au secours de mon incrédulité. Donc en fait, pour moi, l'incrédulité n'est pas une absence de foi, on l'a vu, mais n'est pas une toute petite foi non plus. Et en fait, quand on regarde le mot grec, le mot grec de foi, c'est pistis, et le mot incrédulité, c'est apistis. Donc le préfixe a, on le sait, hein, c'est le préfixe qui annule ou qui oppose, mais dans le grec, en fait, il est traduit aussi comme qui s'oppose à, pas non plus qui... Pas seulement qui oppose, par exemple normal, anormal, c'est vraiment les opposés, mais c'est quelque chose qui en plus veut dire dans le grec qui s'oppose à. C'est vrai que dans la langue française on a l'anti, anti ça s'oppose, ça vient contre, mais dans le grec le a déjà, le préfixe a, peut vouloir dire également s'oppose à. Et en fait avec cet éclairage, moi je comprends que l'incrédulité vient s'opposer en fait, vient contrer notre foi. C'est un rapport de force en fait entre notre foi et l'incrédulité. Et si c'est un rapport de force, ça veut dire que la foi, elle est là quand même. Parce que sinon, s'il n'y a pas de force qui s'oppose, il n'y a pas de rapport de force. OK ? Si je dis, par exemple, je n'ai pas la foi pour ça, hein, mais si je dis à ce pupitre, avance, voilà, imaginons que j'ai la foi pour ça. Eh bien, en face de moi, c'est comme s'il y a l'incrédulité et qui contre ma parole de foi. D'accord ? C'est vraiment un rapport de force, la foi et l'incrédulité. La foi te rapproche de Dieu et l'incrédulité te détourne de Dieu. Et en fait, dans Hébreux, il est dit « Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Donc, l'incrédulité te détourne de Dieu, la foi te rapproche de Dieu. Si le juste vit par la foi, eh bien, il peut aussi mourir par incrédulité. Or, vous le savez, hein, la Bible dit que mon juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Donc en fait, on se rend compte que notre vie, frères et sœurs, est basée uniquement sur la foi. On a cru en Christ par la foi. On ne l'a pas vu sur le bois, nous, on n'y était pas. Mais on a cru en ses paroles, on a cru en ce qui est écrit dans la Bible. C'est qu'une démarche de foi. Et Dieu nous dit, mon juste vivra par la foi. Donc tout ce qui va à l'encontre de la foi s'oppose à la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc si je n'ai pas la foi, et si ma foi n'est pas active, je ne suis pas agréable au Seigneur. Et en fait, l'incrédulité vient contrer notre foi et la rendre stérile. Elle est où l'incrédulité ? Où est-ce qu'on la voit dans la Bible ? Elle est partout en fait. L'incrédulité, elle peut investir une personne. On l'a vu, les disciples, ils n'avaient pas eu la... Enfin, ils avaient la foi, mais l'incrédulité a été plus forte à ce moment-là. Et Jésus les a traités de race incrédule et perverse, d'ailleurs, par rapport à cet échec. Donc vraiment, il leur a pas dit « homme de peu de foi », pas à ce moment-là, mais il leur a dit « vous êtes une race incrédule et perverse ». Le papa de l'enfant aussi, voilà, il a dit lui-même, il a avoué « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité ». Donc il avait conscience qu'il y avait de l'incrédulité dans son cœur. On peut penser à Thomas aussi. Thomas, quand Jésus est venu se révéler aux apôtres, lui, il a dit « Moi, j'ai besoin de voir, quoi. Je ne suis pas sûr que ce soit toi, Seigneur. Montre-moi tes mains, montre-moi tes pieds. » Et Jésus lui montrera, et il le traite d'incrédule aussi dans le texte. Il parle d'un Thomas incrédule. Donc, en fait, l'incrédulité, ça investit une personne. Et donc, ça peut être une attitude de cœur qu'on a forgée, par rapport à des événements peut-être, ça peut être aussi une pression de l'ennemi sur nos vies, mais voilà, ça investit une personne. Ça investit également un contexte négatif, un contexte nauséabond. Par exemple, quand Jésus a été appelé pour ressusciter la fille de Jaïrus, en fait, il est arrivé dans la maison, il y avait tout le protocole de deuil qui était déjà en marche, il y avait les pleureuses qui étaient là, il y avait la famille qui était là, dans la chambre de l'enfant. Et qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Jésus, il a dit, tout le monde dehors, laissez-moi seul avec l'enfant. Je crois qu'il est resté avec les parents, mais voilà. Il a mis tout le monde dehors. Parce que quand il est arrivé, en fait, et qu'il a dit, l'enfant dort, les pleureuses qui étaient là, nous dit le texte, se sont moquées de lui. On rit de lui. Donc Jésus, en fait, il a mis tout le monde dehors. Et à partir du moment où il a assaini, entre guillemets, purifié l'espace, le miracle a pu se produire. Amen. Donc en fait, l'incrédulité, elle investit une personne, mais elle peut investir aussi un contexte. Un contexte. On le voit Pierre aussi quand il a ressuscité Tabitha ou Dorcas à Jopé. Pareil, il est arrivé, il y avait un protocole qui était en place, la famille était là, tout le monde était dans les larmes et dans l'effroi, ce qui est normal. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait sortir tout le monde. Il a pris exemple sur ce qu'avait fait Jésus, hein, d'ailleurs. Il a fait sortir tout le monde et c'est à partir de là que Tabitha est revenue à la vie. J'ai le témoignage d'un frère africain aussi qui avait été appelé... en Afrique, pour prier pour un enfant qui était décédé, et il avait été appelé pour la résurrection de cet enfant. En Afrique, on n'a pas de problème avec ça, on prie facilement, on appelle un homme de Dieu pour qu'il vienne ressusciter son enfant. Et il est arrivé dans la pièce, et là aussi, pareil, il y avait un contexte, il expliquait de mort, en fait, très 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 fort. Et il a commencé à prier pour la résurrection de l'enfant, et il ne s'est rien passé. Et il est resté là toute la journée. Il venait, il repartait, il sortait de la pièce, il revenait, il priait, il ne s'est rien passé. Et au soir, la famille s'est retirée. La famille est rentrée chez chacun chez soi. Et à un moment, il s'est retrouvé seul avec l'enfant. Et à ce moment-là, il a fait exactement les mêmes prières qu'il avait fait toute la journée. À ce moment-là, l'enfant est revenu à la vie. Donc il y a vraiment un contexte, en fait, d'incrédulité qui peut contrer notre foi et contrer l'action de Dieu. J'ai le témoignage aussi d'une femme de Dieu qui a eu un cancer des os. Et quand elle a eu le diagnostic du cancer des os, dans la nuit même, le Seigneur l'a interpellée et lui a dit « Tu n'en parles qu'à 5 personnes de ce cancer. » Et elle ne comprenait pas. Voilà, bon, tu en parles à un tel et un tel. Et elle a questionné le Seigneur, mais pourquoi ? Et le Seigneur lui a dit, parce que si tu en parles à tout le monde, tu vas te faire manger par l'esprit d'incrédulité et tu ne vas pas obtenir ta guérison. C'est texto ce que le Saint-Esprit lui a dit, enfin Dieu lui a dit dans son rêve, dans la nuit. Et donc elle en a parlé, elle a obéi, elle en a parlé qu'à 5 personnes, et ces 5 personnes-là ont été vraiment des appuis solides, fervents, qui l'ont amenée à la guérison divine. Amen. Mais voyez comme quoi le Seigneur l'a préservé par le Saint-Esprit, lui a dit tu n'en parles qu'à certaines personnes, n'en parle pas à tout le monde. Parce que voilà, c'est très puissant en fait. Hein. On se rend compte que l'incrédulité, c'est puissant. D'accord ? Ça investit une personne, mais ça peut investir tout un contexte. Et puis surtout un territoire également. Troisième point, ça investit des fois une zone géographique, un territoire. On l'a vu, Galilée, en fait, ce pays de Galilée était infesté d'incrédulité. Et d'ailleurs, un jour, Jésus arrive à Bethsaïda, qui est une ville de Galilée, qui est sur le lac de Galilée. Et il y a un aveugle qui arrive vers lui et qui lui dit « Seigneur, mais ouvre mes yeux ». Eh bien, le texte nous dit, c'est dans Marc 8, chapitre 8, verset 22, le texte nous dit que Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit en dehors du village. Il le conduisit en dehors du... C'est comme s'il a sorti d'une pègre d'incrédulité, d'un climat d'incrédulité. Il l'a mis en dehors du village. Et là, il a fait de la boue. Avec sa salive, vous connaissez l'histoire, il l'a appliqué sur les yeux. Une première fois, l'aveugle a dit « je vois un peu mieux, mais ce n'est pas encore fini ». Donc il y avait peut-être aussi un esprit d'incrédulité là, il y avait une résistance en fait. On sent qu'il y avait une résistance, ça n'a pas été un miracle soudain, ça s'est fait progressivement. D'abord, il a sorti l'aveugle de Bethsaïda et ensuite, il y a eu plusieurs étapes. Deux fois, il a dû remettre de la boue sur les yeux et enfin, cet homme a pu voir. Et le texte nous dit, et ça c'est très important, à la fin, Jésus lui dit, garde-toi d'en parler autour de toi et n'entre plus dans le village. Je n'avais jamais vu ça et je l'ai vu en préparant ce message. N'entre plus dans le village. Donc il y a vraiment des contextes d'incrédulité. Il y a des zones qui sont dominées par l'incrédulité. Et même Jésus, en fait, s'en est écarté pour pouvoir faire son miracle. Vous vous rendez compte ? Jésus lui-même. Ça ne veut pas dire que, voilà, il n'a pas eu son miracle, mais il a dû se sortir, s'extraire du village pour pouvoir accomplir ce miracle. Et moi, je pense que vraiment, depuis des siècles, en fait, l'incrédulité a vraiment envahi notre société. Elle est présente, pour moi, quand je réfléchis à ça, elle est présente partout, dans les médias, les systèmes de pensée, dans les hautes sphères de la société, en politique, dans l'éducation, malheureusement pour nos enfants, dans l'art et la culture, sur notre pays de France, je le crois fortement aussi, parce qu'on est quand même un pays de contestataires, qui remettons en cause tout, qui sommes de nature assez incrédules, ou du moins suspicieux de tout. Et je crois qu'il y a un esprit d'incrédulité. Et comme on l'a vu, que l'incrédulité investit une personne, ça peut provenir d'une attitude de cœur, mais comme elle investit une personne, un contexte, jusqu'à un territoire, moi, je pense qu'il y a un esprit d'incrédulité. Au-delà d'une attitude de cœur, il y a un esprit d'incrédulité qui est présent partout dans ce monde, dans la société. Et je me souviens d'un matin, un jour, on priait, et tu avais prié un mardi matin, et tu avais prié en disant « Seigneur, arrache-nous de cette incrédulité qui colle à notre peau ». Et je reprends ces mots parce que moi, personnellement, je pense que viscéralement, on est dans le péché, on est avec cet esprit d'incrédulité qui pèse sur nous, qui nous empêche, qui veut nous faire croire que Dieu n'existe pas, ou qui veut nous faire croire que Dieu n'a pas de promesse pour nous, ou qui veut nous faire croire qu'on n'est pas capable, qu'on n'a rien reçu, qu'on est impuissant. Eh bien, voilà, je pense que c'est quelque chose de fort, en fait, ça nous colle à la peau. Et tout est fait dans ce monde pour prouver que Dieu n'existe pas, pour montrer que Dieu n'existe pas, que Jésus n'est pas de Dieu, que c'est une belle histoire, voilà, et qu'on fête Noël et par tradition. Mais tout ça, en fait, cet esprit d'incrédulité qui est dans ce monde et qui est l'esprit de ce monde, en fait, c'est une vraie insulte, et je le pèse mes mots, c'est une insulte à la véracité divine. C'est une insulte au plan éternel de salut pour nos vies Et c'est plus qu'une attitude, c'est un esprit qui vraiment qui plane. Et finalement, vous connaissez ce texte dans les Éphésiens qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. » Et je crois et je ressens dans mon cœur que l'incrédulité, c'est une domination spirituelle qui domine sur notre monde, qui domine sur notre pays fortement, qui domine dans certains contextes, qui domine certains territoires, qui domine certaines familles, certaines personnes. Moi, personnellement, je sais que je suis issu d'une famille hyper, hyper incrédule. Voilà, dans ma famille, c'est tous des intellectuels, c'est tous des rationalistes, des pragmatiques. Il y a énormément d'incrédulité et je sais que j'ai hérité de ça. J'ai forcément hérité de ça parce que mon éducation m'a éduqué là-dedans et j'ai hérité de ça. Et ce message, en fait, je le fais pour l'Église, mais je le fais aussi pour moi, vous l'avez compris. Je sais que c'est attaché à moi et je sais que le Seigneur m'en délivre petit à petit. Ça fait plusieurs semaines que je jeûne et je prie pour cela et le Seigneur est en train de m'en délivrer. Amen. Et en fait, c'est très proche de l'esprit de l'Antichrist qui s'oppose à la révélation de Jésus-Christ. Dans 1 Jean 4, 2, il est dit « Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » C'est-à-dire qu'à l'époque déjà, Jean nous dit que l'Antichrist est déjà dans ce monde. Il est déjà là. L'esprit de l'Antichrist est déjà là. C'est pour ça que je dis que c'est une domination, l'incrédulité. L'incrédulité s'oppose en fait au fait que Jésus est venu sur la terre, a été incarné, a été fait chair. Il s'oppose à cela. Et on peut se demander, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Pourquoi Dieu est empêché d'agir? Pourquoi quand il y a l'incrédulité, comme on l'a vu dans ces textes-là, Dieu n'a pas pu agir? Ben, moi, je pense que tout simplement parce que Dieu nous aime, il nous aime énormément, il est totalement dingue de nous. C'est peut-être dur à entendre ça aussi, pour des gens qui n'ont pas été éduqués dans l'amour, mais Dieu nous aime profondément. Il est profondément attaché à nous et il attend de nous des cœurs entiers, en fait. Il cherche des gens qui osent croire qu'ils sont aimés, sans condition, et qui font partie de l'épouse de Christ. Et qui croit que cette épouse en fait de Christ, elle ne doit pas chercher à avoir la faveur de Dieu. Elle est tout simplement la faveur de Dieu. Nous sommes sa faveur aujourd'hui. Tout est accompli. Sur le bois du calvaire, Jésus a tout accompli. Donc aujourd'hui, on n'a pas à chercher à être méritant. On n'a pas à chercher à être méritant pour recevoir la faveur de Dieu. Nous sommes, frères et sœurs, la faveur de Dieu. Et quand on réalise ça, en fait, on se rend compte que finalement, l'incrédulité qu'il y a dans nos cœurs peut considérablement attrister le Saint-Esprit, attrister Dieu. Pour lui, c'est un signe de manque d'amour, de manque de confiance. Et en fait, le Seigneur, il va être réglo, en fait. En fait, le Seigneur, il va agir quand il a des gens en face de lui qui croient profondément aux miracles, aux paroles, à son action, à sa puissance. S'il y a une petite pointe d'incrédulité, eh bien ça peut être un vrai obstacle à la bénédiction de Dieu. Et comme on le sait, hein, un tout petit peu, la parole nous dit qu'un tout petit peu de levain fait monter toute la pâte. Des fois, il suffit de presque rien, mais un petit rictus. Quand on nous parle quelque chose, quand on nous annonce quelque chose de positif, quand on nous dit « voilà, j'ai une parole pour toi », un petit pas en retrait, même un petit rictus, ça c'est des signes d'incrédulité. Ça ne veut pas dire qu'il faut croire à tout, frères et sœurs, hein, attention. Hein. Mais quand une parole est donnée de la part de Dieu, on le sait, on le sent. Et si on n'en est pas sûr, on a le jeûne et on a la prière pour qu'elle soit confirmée. Et c'est vraiment un tout petit... des fois, c'est insignifiant et des fois, on n'a même pas conscience qu'il y a des racines d'incrédulité en nous. Moi, je crois que l'Église, malheureusement, est infestée par l'incrédulité. Pas seulement la société, malheureusement. Et Dieu nous dit que, malheureusement, il nous le dit dans l'amour, mais il nous le dit quand même, dans Jacques, celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il le dit avec amour, hein, je pense, hein, mais en tout cas, Il le dit clairement. Et donc, s'il y a une racine d'incrédulité, de doute en nous, clairement, on n'a pas à s'attendre à recevoir quelque chose du Seigneur. Il veut des cœurs entiers, il veut des cœurs tout à lui, il veut des cœurs qui croient. Amen. Alors, c'est peut-être plus fort que toi ce matin, c'est peut-être plus fort que nous, parce que c'est ancré en nous, c'est viscéral, c'est là, c'est présent depuis longtemps, peut-être que c'est générationnel, je ne sais pas, mais cette incrédulité nous empêche, on l'a compris ce matin, de voir la gloire de Dieu, nous empêche de voir son action. Je voudrais juste reprendre quelques points. L'incrédulité n'est pas une absence ou un manque de foi, c'est un esprit, une domination qui s'oppose à la foi et donc à la marche chrétienne, puisque notre marche est de marcher par la foi, le mot juste vivra par la foi. L'incrédulité est bloquante, puisque dans certains contextes ou sur certains territoires, elle empêche l'action de Dieu, on l'a vu. L'incrédulité est très présente dans ce monde, très présente dans la société, et malheureusement, je crois, présente dans nos cœurs de chrétiens, parce qu'elle est attachée à nous, on est dans le péché, et si on ne met pas le doigt sur cette incrédulité, et si on ne la chasse pas, et si on ne s'en débarrasse pas, et si on n'œuvre pas pour s'en débarrasser, elle sera toujours là. Elle sera toujours là pour nous faire douter, pour nous faire croire que non, ça, ce n'est pas possible, non, ça, j'y crois pas. Et le Seigneur veut vraiment qu'on rompt ce lien, cette puissance, c'est une puissance en fait. Et si notre amour pour Dieu ne surmonte pas notre incrédulité, notre foi est inactive. Parce que dans Galates 5-6, il dit « la foi est agissante par l'amour ». Donc si nos cœurs ne sont pas tout entiers au Seigneur, s'il n'y a pas un amour plein, sincère, vrai envers le Seigneur, notre foi n'est pas agissante. Notre foi est stérile. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de foi, encore une fois, mais elle est rendue stérile par notre manque d'amour, notre manque de dévotion, la petite incrédulité qui traîne au fond de nous. Et je vous le disais, moi, ça fait plusieurs semaines que je prie en ce sens et je jeûne beaucoup contre ça. Et je vois déjà, je ne dis pas que tout va se résolver suite à une prière, mais vraiment c'est un cheminement en fait, parce que c'est tellement puissant, c'est tellement ancré en nous et dans la société qu'il faut vraiment déraciner, racler. Et je le vois, je vois que je suis plus réceptif à certaines choses, là où avant, tout de suite j'avais un rejet d'incrédulité. Je vois que je suis plus réceptif, beaucoup plus, donc le travail de Dieu se fait, et je veux vous encourager en fait. Je ne veux pas que ce soit un prêche qui nous condamne ce matin, je veux que ce soit un prêche qui mette le doigt sur cet obstacle-là qui existe, qui est réel, qui est puissant, on l'a vu, mais que Dieu peut contrer. Amen. Et c'est dans l'amour de notre Seigneur qu'on contrera l'incrédulité. Celui qui est amoureux de Jésus, il croit à tout ce que lui dit Jésus. Un enfant, il est amoureux de son père. Son père peut dire n'importe quoi, il y croit, dur comme fer. Amen. Eh bien, Jésus, voilà, il veut qu'on croie en lui de tout notre cœur, de toute notre être, de toute notre pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être et de toute ta pensée. Dans l'amour, frères et sœurs, il y a la libération. Dans l'amour, amen, il y a la victoire sur l'incrédulité qui pollue nos vies, qui nous empêche de goûter à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Vous savez que Paul parle de cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et ce matin, si certains se sentent encore liés, se sentent pas complètement libres en Christ, peut-être, c'est un des obstacles, mais peut-être que c'est la source, c'est l'incrédulité. Et on va peut-être s'inviter à prier tous ensemble, on a un peu de temps, pour peut-être briser ce climat d'incrédulité qui est dans nos cœurs, qui pollue nos vies, qui nous empêche d'être un homme, une femme établie en Christ, victorieux en Christ, et qui pollue également notre Église et qui nous rend stérile. Amen. Alors je voudrais d'abord m'adresser à... Ouais, je vais m'adresser à ceux qui ne croient pas en eux, qui doutent de leur mandat, qui ne croient pas en l'appel de Dieu pour leur vie, qui ne croient pas qu'ils soient capables, qui refusent à chaque fois un mot, une parole du Seigneur. Je voudrais briser tous ces mensonges en fait, qui viennent de l'ennemi, qui peut-être vous ont rendu stérile, qui ont mis le doigt sur vous, plus que sur l'œuvre de Jésus en vous. Et je vous rappelle que nul n'est digne de recevoir quelque chose de Dieu. Et bien sûr, osez croire que Dieu vous aime d'un amour inconditionnel, qu'il fait de vous des fils et des filles de son royaume, qu'il vous comble de ses biens et de sa plénitude. Et je voudrais prier pour que tout esprit contre tout esprit d'incrédulité. Et s'il y a des personnes comme ça qui se sentent stériles en fait dans leur foi, qui pensent avoir la foi, et vous avez la foi, je vous confirme que vous avez la foi, ce n'est pas un problème de foi, on l'a vu dans ces écrits, même si votre foi était toute petite, vous déplaceriez des montagnes. Mais qui malgré leur foi, malgré leur bonne intention, malgré leur dévotion envers Dieu, malgré leur vie réglée, sont dans la stérilité. À chaque fois qu'ils prient, ils ne voient pas de réponse à leurs prières. Ils sont dans l'échec permanent. Peut-être que c'est dû à cet obstacle de l'incrédulité. Et si ce matin, ce message te parle, j'aimerais que ceux qui sont touchés puissent se lever. On va briser tout lien de l'ennemi, alléluia, qui vous tient lié, qui vous fait croire des mensonges, amen, qui vous fait penser que vous n'êtes pas capable, que vous êtes nul, que vous valez rien, au nom de Jésus, alléluia. Je brise tout esprit d'incrédulité qui vous fait analyser tout, qui vous rend suspicieux de tout, qui vous rend regardant sur tout, qui vous empêche d'accueillir une parole de Dieu avec simplicité. Au nom de Jésus, je brise tout esprit d'incrédulité qui règne dans ce lieu, qui règne dans les cœurs. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Je brise tout esprit d'incrédulité qui vous rend infécond. Alléluia. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, tu es appelé à vivre la liberté. Amen. Tu es appelé à vivre la liberté. Alléluia. Peuple de Dieu, alléluia. Refuse toute incrédulité au nom de Jésus. Nous nous opposons à tout esprit d'incrédulité. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Jésus, tu rends libre, Seigneur. Tu rends libre. Alléluia.